Sinon, pour revenir plus précisément sur les points que j'avais envie de mentionner, donc oui, moi j'avais envie de parler du chamboulement des fondations au siècle dernier. Moi j'ai envie de dire, le truc qui a vraiment changé les maths au siècle dernier, ou au moins vu de ma fenêtre, c'est le fait que les gens se sont aperçus qu'on pouvait pas faire des maths n'importe comment, foncer à toute berzingue, à construire des tas de pièces, et qu'un jour tout ce joli château de cartes pouvait s'effondrer. Et qu'en gros, tous les trucs qu'on avait montés jusqu'avant, du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui pouvait venir et dire « Ah, vous êtes des rigolos, mais vous avez construit vos jolis théorèmes en partant en bas d'un truc qui est juste faux. » Et si jamais vous empilez des tas de raisonnements sur un machin qui, au départ, se trouve être juste contradictoire, c'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois une phrase et à la fois le contraire, et là, tout s'effondre, tous les résultats du dessus sont bien jolis, mais ça sert à rien, parce qu'en fait, ils ont la même équivalence que de dire « juste, c'est faux ». Donc ça, c'est arrivé. C'est vraiment arrivé au siècle dernier. Ils étaient en train justement d'essayer de nettoyer un peu la cave et d'arriver à dire précisément ce que doit être le système de base, la logique. En gros, comment faire un raisonnement mathématique. Ils étaient en train d'essayer de nettoyer tout ça. Et quelqu'un est venu en disant « Ah oui, mais cette jolie proposition, qui était en fait la façon dont les mathématiciens fonctionnaient à l'époque. » Quelqu'un est venu en disant « Oui, c'est rigolo. » D'accord, voilà la façon dont ça fonctionnait à l'époque, un peu nettoyé, mais quand même, la façon de faire, c'était le programme de...
C'est Hubert.
Voilà. Et quelqu'un est venu en disant « Ah oui, mais non, ça marche pas. » Il y a un joli paradoxe. Paradoxe qui fait que la façon dont on faisait à l'époque, c'est cool, c'était des histoires d'emboîtement d'ensemble à l'intérieur d'eux-mêmes, ce qu'on appelle le paradoxe de Russell. Qui dit, alors la version imagée, c'est le coup du barbier, où on imagine un village dans lequel il y a un barbier, et le barbier, son contrat, c'est de raser toutes les personnes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Donc mon barbier, il est censé raser tous les gens qui ne se rasent pas eux-mêmes. Alors maintenant, la question, c'est qui rase le barbier? S'il se rase lui-même, ça va pas, parce que son contrat... Donc c'est quelqu'un qui se rase lui-même, et du coup, son contrat est invalidé, parce que son contrat est de dire, je rase les gens qui ne se rasent pas. Donc il est en train de raser quelqu'un qui se rase lui-même, ça va pas. Donc c'est pas possible. Mais si on prend à l'envers la situation où c'est quelqu'un d'autre qui le rase, donc c'est lui et quelqu'un qui ne se rase pas lui-même.
Mais il ne rasera pas.
Donc du coup, son contrat dit, tu devrais te raser. Donc en fait, quelle que soit la façon dont on aborde le problème, on obtient une contradiction. Et les maths de l'époque permettaient de construire ce genre de truc, de situation bizarre. Donc là, ça a été, en gros, il n'y a pas eu de suicide de matheux, mais enfin, on n'en était pas loin.
Il y a eu une dépression de Frege.
Voilà, Frege était en train d'avoir fini d'écrire un superbe monument d'ouvrage là-dessus. Et je crois qu'il était, ouais, il était déjà parti chez l'imprimeur, ou presque. Ah ouais. Et quelqu'un lui envoie une lettre. À l'époque, il n'y avait pas de mail. Ça passait par l'aile, le fameux Russell du paradoxe de Russell, qui lui envoie une lettre en disant « Ah, je crois qu'il y a un hic ». Frege reçoit cette lettre et s'aperçoit qu'effectivement, il y avait vraiment un gros souci. Un truc qui se corrige, un vrai gros souci fondamental.
C'était surtout le problème, c'est que avant on raisonnait en maths, on savait pas trop les règles de raisonnement, on savait pas trop comment on raisonnait. Alors tant que chacun faisait ses petits raisonnements dans son coin, ça allait. Sauf qu'au bout d'un moment, bon, quand les gens faisaient les raisonnements en arithmétique, ça allait. Quand ils faisaient leurs raisonnements en géométrie, ça allait. Quand ils faisaient leurs raisonnements en algèbre, ça allait. Puis évidemment, les maths du 19e, on commence à tout mélanger. On fait de la géométrie avec de l'analyse, on fait de l'analyse avec de l'arithmétique. On mélange les ensembles là-dedans, on commence à tout mélanger. Du coup, il faut connaître les règles de raisonnement communes.
Les règles de raisonnement, en gros, quelque part, c'est la façon de procéder pour que tout le monde, toute personne normalement constituée qui a appris un peu de maths, soit convaincue que ce que tu as fait toi marche. Donc il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de règles de base qui permettent d'avancer sans se mettre les pieds dans le tapis. Et donc chacun avançait dans son petit domaine et les autres gens du domaine étaient d'accord. Quand on fait des calculs sur les entiers, c'est pas trop dur de se dire que si on a 1 plus 1 égale 2, alors on a 2 égale 1 plus 1, des choses comme ça.
La moitié du 19e siècle, c'est en fait le fait que toutes les mathématiques se sont connectées les unes aux autres. C'est qu'il y avait plein de petits morceaux un peu épars, qui est vraiment une... Vous, quand vous apprenez les maths, vous apprenez d'un côté les vecteurs, de l'autre côté l'algèbre, de l'autre côté ceci, cela. Mais vous avez vu la première connexion quand même. Il y a eu une première connexion dans l'histoire, vous ne l'avez sans doute pas vue comme une connexion, mais c'est une connexion. Vous avez vu la géométrie. J'ai fait de la géométrie, je suppose, un petit peu. Vous avez vu les droites, etc. Et vous avez fait de l'algèbre aussi. Vous avez résolu les équations. Et vous avez vu une première connexion entre les deux, qui est qu'on peut décrire des phénomènes géométriques à l'aide des coordonnées, les transformant en des équations. Ça, vous savez faire ça, je suppose.
Surtout que effectivement, c'est la première connexion des enseignements de maths. C'est de résoudre des problèmes de géométrie avec de la...
C'était une découverte absolument incroyable. C'était de dire qu'en fait, les gens qui raisonnaient en géométrie pouvaient traduire le problème en des problèmes d'algèbre. Mais du coup, les gens qui raisonnaient en algèbre pouvaient traduire le problème en des problèmes de géométrie. Et en fait, c'est la première connexion qui s'est faite entre deux branches, c'est celle que vous avez vue à l'école. Et en fait, maintenant, depuis, on a connecté tout. Tout a été connecté. Et du coup, on est capable de transporter les méthodes de raisonnement, sauf que le jour où on a tout connecté, eh ben, il a fallu des gens qui mettent en place les règles de raisonnement communes à toutes les mathématiques, le fameux Frege qui s'y collait, jusqu'au jour où il a fait son traité, où enfin il y avait les petites règles de raisonnement de base par lesquelles toutes les mathématiques jaillissent. Et le jour où il a enfin ses règles, il a enfin le Graal. L'étape de la loi. Voilà, c'est Moïse, il a l'étape de la loi, il sait comment on raisonne. Il écrit ça, et puis petite lettre, il a envoyé des épreuves de son manuscrit un peu à droite et à gauche chez les copains. Et puis Russell, il y a un problème. Il y a un problème, et Russell, en gros, a démontré que 0 égale 1. C'est pour ça qu'il a démontré. Mais de manière parfaitement rigoureuse, en suivant la règle de raisonnement autorisée.
Ça a pris un petit bout de temps, un grand bout de temps pour arriver à avoir une version patchée. Oui, c'est bon.
10 ans.
Mais à chaque fois, c'est qu'une branche des maths qui...
Comme il cherchait à faire une sorte de grande unification, de dire les choses communes à toutes les branches des maths, en gros, il ne cherchait pas à décrire les axiomes de tel ou tel domaine, les axiomes des nombres ou les axiomes de la géométrie. Par contre, il cherchait à
trouver les principes
communs, les raisonnements. Ce qui permet, à partir d'un certain axiome, d'avancer et d'aller chercher les théorèmes qui suivent. Donc là, si jamais on a un problème dans le raisonnement, le raisonnement permet de dire, tiens, j'ai un nombre qui est à la fois 0 ou 1.
Ça, on peut déjà une contradiction dans toutes les branches des mathématiques.
Il y a un théorème qui dit que si jamais on a faux, alors on peut avoir n'importe quoi.